Vous écoutez RTL.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
Bonsoir, le 15 de France reprend des couleurs. Belle victoire cet après-midi en Italie, 40 à 18. On va appeler Jean-Michel Rascol dans un instant à Rome. L'hommage au dernier du Vendée Globe. Des milliers de spectateurs ont acclamé Sébastien Destremau aujourd'hui au Sable d'Olonne. Il est arrivé 50 jours après le vainqueur. Il y a 2 ans, en Argentine, 10 personnes, dont Florence Artaud, Camille Muffat, Alexis Vastine, trouvaient la mort lors du tournage de Dropped, le jeu télé. Cet après-midi au Trocadéro à Paris, les familles se sont retrouvées, à la fois un hommage et une demande à la justice pour qu'elle aille plus vite. Dans ce journal également, Jean-Luc Mélenchon qui dit avoir ses 500 signatures, Hervé Mariton qui met en garde une partie de son camp après la caricature qui a visé Emmanuel Macron, Marine Le Pen qui s'en est pris une nouvelle fois au système cet après-midi près de Châteauroux, et puis plusieurs rassemblements anti-nucléaires, notamment à Strasbourg, 6 ans jour pour jour après la catastrophe de Fukushima. Football, 29e journée de Ligue 1 depuis 16h45. Le leader Monaco reçoit Bordeaux sous les yeux de Mickaël Lefebvre. Bonsoir.
Oui, bonsoir Philippe. 0 à 0 entre Monaco et Bordeaux après une heure de jeu dans cette rencontre. Match très fermé. Première occasion monégasque à l'instant. Une tête sauvée sur sa ligne par un défenseur bordelais.
En Ligue 2 cet après-midi, Strasbourg a fait tomber le leader Brest 4 à 1. En cyclisme, déception pour le jeune français Alaphilippe dans Paris-Nice. Il a perdu cet après-midi son maillot jaune au profit du Colombien Henao et l'arrivée c'est demain. Les courses pour le tiercé Quartet Quintet Plus cet après-midi à Saint-Cloud, il fallait jouer le 4, l'As, le 16, le 9 et le 18. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
La tendance météo?
Il a fait beau aujourd'hui, il a fait très très beau, c'était printanier, c'était agréable. On a déjà quelques pluies sur la Bretagne demain, ce soir et demain. Douche générale par l'ouest, c'est l'hiver demain, c'est reparti.
A tout à l'heure, prévision complète dans un quart d'heure.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
2 ans que le 15 de France n'avait pas gagné à l'extérieur. C'était à Rome, déjà la dernière fois. Cet après-midi, les joueurs de Guinovès ont donc retrouvé le sourire en battant l'Italie 40 à 18. Large victoire, grâce notamment à 4 essais français signés Ficou, Vakatawa, Picamol et Dulin. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes en direct de Rome. Pour tout vous dire, on vous a un peu envié cet après-midi. Le ciel bleu, la douceur italienne, mais surtout, vous avez assisté à une victoire convaincante des joueurs de Guinovès.
Oui, c'est vrai que ça fait 2 ans, Philippe, mais dans le tournoi, la France a gagné en Argentine l'été dernier. Alors, c'est un succès dans la logique des choses. Les Irlandais avaient marqué ici 63 points et inscrit 9 essais. Il n'y a donc pas matière à crier au génie. Il n'en reste pas moins vrai que l'équipe de France n'a pas tremblé. Après 10 minutes poussives et un essai italien marqué par Sergio Parisse, Gaël Ficou se chargeant de rétablir l'équilibre, 16 à 11 à la mi-temps. Puis, des mouvements et des essais qui s'enchaînent. Vakatawa, Picamol, Dulin, ils franchissent tour à tour la ligne pour éliminer tout suspense. Ce sentiment du travail accompli donc et la volonté de basculer très vite vers le prochain match, l'ailier Johan Hugé.
Sur la bonne voie, je ne sais pas si on perd la semaine prochaine, il y a tout qui sera remis en question. Face à l'ogre gallois, je pense que tout le monde a vu le match hier, donc on veut juste avouer d'abord cette victoire. Elle n'était pas évidente, c'est toujours un peu particulier de jouer contre les Italiens. Donc voilà, on est content de cette victoire et d'autant plus bonifié.
On a droit à 2-3 bières quand même après une victoire comme ça, un petit tour dans Rome, profiter un peu de...
Je pense pas, je pense qu'on a juste un jour de récup à moins que les Gallois et ça c'est très important. Demain, le retour à Marc aussi pour être plus tranquille.
Car pour espérer monter sur le podium de ce tournoi, oui c'est encore possible, le 15 de France doit battre le Pays de Galles la semaine prochaine au Stade de France. Une histoire bien plus rude en perspective. Les Gallois hier ont battu l'Irlande, mais ce soir, vous l'avez compris, la pression est quelque peu retombée. Bernard Laporte et Guinovès ont même échangé quelques compliments. Cette victoire al dente, juste comme il faut, fait vraiment, Philippe, du bien à tout le monde.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Dans l'autre match de l'après-midi qui se joue depuis 17h, l'Angleterre mène 30 à 7 face à l'Écosse. On est à la mi-temps. Si l'Angleterre gagne ce match, elle remporte, vous le savez, le tournoi. Au Sable d'Olonne, c'est également sous un ciel tout bleu qu'a pris fin aujourd'hui le Vendée Globe. Le dernier concurrent a franchi la ligne la nuit dernière, c'est le Toulonnais Sébastien Destremau, arrivé 50 jours après Armel Lecléache, le vainqueur. Sébastien Destremau termine 18e, mais il a bouclé son tour du monde après une course éprouvante, des côtes fêlées, des repas rationnés, pas mal de casse à bord de son bateau vieux de 20 ans. Bref, pour toutes ces raisons, la foule, des milliers de personnes aujourd'hui lui a réservé un accueil digne d'un vainqueur. Au Sable d'Olonne pour RTL, Christian Panvert.
Les bras tendus vers le ciel sous un soleil quasi printanier, Sébastien Destremau savoure son plaisir en entrant dans le chenal qui mène au port. Il vacille presque devant les milliers de personnes venues saluer, bien plus que le sportif, l'aventurier qui est allé jusqu'au bout d'un rêve.
Je n'ai pas fait ce Vendée Globe comme une compétition, j'ai fait ce Vendée Globe plus comme une aventure à partager.
Sa mère Thérèse, 83 ans, le serre dans ses bras. Elle reconnaît avoir passé quelques nuits blanches durant ces 4 derniers mois.
Très souvent.
Vous êtes fier de lui ?
Oui, et je suis fier de tous ceux qui ont aidé à ce qu'il puisse partir.
Et s'il repart ?
Eh bien, il repartira. On ne peut pas garder un mec comme ça, vous savez.
Michel et Jean-Yves ont suivi la course au quotidien. Ils voulaient être là.
Moi, je trouve que le dernier t'a encouragé autant que le premier.
C'est peut-être celui qui a le plus de mérite aussi. Il y en a d'autres qui sont partis avec plus de moyens, qui sont restés en rade.
Avant de partir, le skipper a remercié le public.
Sans vous, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de bateau. Merci.
Il lui donne rendez-vous dans quelques semaines avec la sortie d'un livre modestement intitulé « Dernier de Vendée ».
Sébastien Destremau, merci Christian Panvert au Sable d'Olonne pour RTL. À Paris, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies aujourd'hui sur le parvis du Trocadéro, 2 ans après l'accident de Drop. Drop, vous en souvenez, c'était ce jeu télé diffusé sur TF1. 10 participants, pilotes ou techniciens, avaient trouvé la mort lors de la collision entre 2 hélicoptères. Parmi les victimes, plusieurs sportifs connus, Florence Artaud, Camille Muffa ou encore Alexis Vastine. 2 ans après, les familles se sont donc retrouvées pour un hommage, mais aussi pour demander à la justice de ne pas relâcher la pression sur les responsables de la tragédie. Jean-Baptiste Bourgeon.
Les familles et les proches se serrent les uns contre les autres au milieu du parvis.
Nous n'oublions pas Florence Artaud, Édouard Gilles, Brice Gilbert.
Beaucoup pleurent et tiennent dans leurs mains des bouquets de roses.
2 ans après ce drame, nous les familles des victimes attendons toujours des réponses et nous sommes unis et déterminés à en obtenir. Nous n'avons aujourd'hui qu'une obsession commune. Que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la tragédie du 9 mars 2015.
Tour à tour, les familles déposent des portraits et des fleurs sur le sol pour ne pas oublier.
Ça, c'est pour Édouard et pour les autres.
Gisèle, la femme d'Édouard Gilles, l'un des cadreurs décédés, veut que les responsabilités soient enfin établies.
Il faut qu'on sache. C'est une souffrance où on ne peut plus vivre comme ça. On est tout le temps comme au premier jour. On doit tout le temps repenser à l'accident. 7 secondes pendant lesquelles ils se sont rendus compte que c'était fini, ça ne peut pas être pour rien. Quoi. Il faut qu'on sache pourquoi c'est arrivé, parce que ce n'est pas un accident normal du tout.
Au-delà de l'émotion, ce qui amplifie la tristesse des familles, c'est le temps de la procédure judiciaire, très long. 2 ans après le crash, l'enquête patine encore en Argentine comme en France.
Reportage Jean-Baptiste Bourgeon pour RTL. À la SNCF, un délégué du personnel appartenant au syndicat Sudrail s'est suicidé la nuit dernière. Gare Saint-Lazare à Paris, âgé de 42 ans, il s'est jeté sous un train. Une enquête de police est en cours. Selon son syndicat, ce délégué qui bénéficiait d'un statut de travailleur handicapé était attaqué depuis plusieurs années par sa direction. Et puis, autre suicide, une adolescente de 13 ans s'est jetée du 6e étage au Grand Quevilly, près de Rouen. Selon les policiers, la jeune fille pourrait avoir craqué pour une histoire de harcèlement dans son collège. 18h08 sur RTL. Dans un instant, la politique, on va entendre Jean-Luc Mélenchon. Il dit avoir ses 500 signatures.
RTL Soir, Philippe Robuchon.
On parle politique dans un instant, mais d'abord le football en direct, puisqu'il y a un but à Monaco, Mickaël Lefebvre.
Oui, et l'ouverture du score en faveur de l'AS Monaco, un but inscrit par la pépite Kylian Mbappé, un plat du pied dans la surface de réparation qui ne laisse aucune chance à Cédric Carrasso. C'est le 10e but de la saison en Ligue 1 pour Mbappé. 1-0 pour Monaco à 20 minutes de la fin.
RTL Soir.
Il n'y avait pas que le 15 de France qui était à Rome. Aujourd'hui, il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, participait à un sommet européen du Plan B, un sommet censé jeter les bases d'une nouvelle construction européenne avec ses partenaires. L'occasion pour lui de rassurer ses supporters dans la campagne présidentielle. Vendredi, lors du dernier pointage, le Conseil constitutionnel ne lui avait validé que 432 parrainages à Jean-Luc Mélenchon. Visiblement, depuis, ça a bougé. Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure, à Rome, disait avoir ses 500 signatures.
J'ai l'information de la certitude d'avoir réuni 500 signatures et plus. Donc ça veut dire que maintenant, ma candidature est assurée. Je suis heureux de la diversité des parrainages qui me sont parvenus. Et il eût été inconcevable que quelqu'un qui a réuni 4 millions de voix à l'élection précédente n'ait pas pu cette fois-ci être candidat. Ça me permet aussi de continuer à dénoncer ce système des parrainages qui est odieux, insupportable à tout le monde, aux élus qui n'ont jamais demandé ce privilège. Et je préférerais qu'on en revienne à un parrainage citoyen. Lionel Jospin avait proposé 150 000 signatures, mais moi j'accepte jusqu'à, s'il le faut, 300 000, 400 000, 500 000 signatures de citoyens, mais de grâce qu'on en finisse avec ce système du notabila que personne n'a demandé.
Jean-Luc Mélenchon à Rome, au micro RTL d'Anne Lenire. Chez les Républicains, Bernard Accoyer, le secrétaire général, a présenté ses excuses à propos de la caricature visant Emmanuel Macron, caricature dans laquelle certains ont vu des relents d'antisémitisme. D'ailleurs, au sein même de la droite, plusieurs élus n'ont pas apprécié ce dessin. Parmi eux, Hervé Mariton, le député de la Drôme. Écoutez-le, il est joint par Raphaël Vantard.
Je suis député de la République et je suis de confession juive de manière tout à fait assumée. Je ne le porte pas en ostensoir et je ne m'en cache pas non plus. Comme je m'appelle Mariton, les gens ne réagissent pas toujours de la même manière et ne prennent pas toujours les mêmes précautions de langage. Il y a, je trouve, dans la référence Macron, Grand Capital, Rothschild, puissance d'argent, un bout de relent qui n'est pas tout à fait sain. Je le dis comme je le pense, et donc je suggère, dans l'intérêt du débat de l'élection présidentielle, pour tout plein de raisons, nous pouvons démontrer que le projet de François Fillon est supérieur, alors faisons-le sur des arguments de fond.
Hervé Mariton joint pour RTL par Raphaël Vantard. Quant à Marine Le Pen, elle était dans l'Indre aujourd'hui. Lors d'une réunion publique à Châteauroux, elle a dénoncé pêle-mêle la mondialisation, l'insécurité. Elle s'en est pris surtout à ses principaux concurrents. Châteauroux pour RTL, Julien Fautra.
Ouais, les attaques de Marine Le Pen ont été d'une rare intensité. Pendant plusieurs minutes, elle a pilonné François Fillon et Emmanuel Macron. Chacun hué à de multiples reprises. La candidate a martelé que l'un et l'autre étaient les candidats d'un même système.
Quand M. Macron cajole M. Juppé, M. Juppé parraine M. Fillon, qui dit qu'il pourrait prendre M. Macron comme ministre. M. Fillon ayant déjà pris dans son gouvernement M. Jouyet, socialiste et parrain politique de M. Macron. Une ronde sinistre. C'est qu'il sait que si l'un m'affronte au second tour, l'autre appellera toujours à voter pour lui. C'est d'ailleurs si vrai que quand l'un baisse dans les sondages, c'est l'autre qui remonte et vice-versa.
Le système, ce mot, est répété des dizaines de fois, système politique et médiatique. Puis Marine Le Pen s'est concentrée sur ses thèmes de prédilection, l'insécurité, l'abandon des zones rurales. Pas un mot, en revanche, sur l'économie, ni sur la justice, les affaires, celles qui empoisonnent sa campagne. Et au lendemain d'une convocation chez le juge, à laquelle elle ne s'est pas rendue, et après la mise en examen d'un second assistant parlementaire dans le cadre de l'affaire des présumés emplois fictifs.
Julien Fautra pour RTL à Châteauroux. À l'étranger, le Japon s'est recueilli aujourd'hui. Il y en a fait 6 ans, jour pour jour. 18 000 personnes trouvaient la mort ou disparaissaient, conséquence d'un tremblement de terre qui allait entraîner un terrible tsunami. Personne n'a oublié ces images. Tsunami qui allait également provoquer la catastrophe nucléaire de Fukushima. C'est la raison pour laquelle, partout dans le monde, donc aujourd'hui, ont eu lieu des rassemblements anti-nucléaires à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, ainsi qu'à Strasbourg, Doris Henry, où le mot d'ordre aujourd'hui était « Venez avec des poussettes ».
Des dizaines de poussettes en tête de cortège, c'était le symbole voulu cet après-midi pour penser aux générations futures. Daniel a suivi le mot d'ordre.
J'ai emmené la poussette de ma dernière petite fille. Dessus, j'ai donc des barils tout jaunes avec le petit signe radioactif noir. Si jamais il y avait un grand accident comme Fukushima, ce sera surtout terrible pour nos enfants.
Le calendrier, c'est donc bien ce 6e anniversaire de Fukushima, mais surtout la présidentielle à venir, vue par les Alsaciens et par les Allemands.
Aujourd'hui, on est à un mois des élections. Fessenheim sera toujours ouvert.
En Allemagne, on en parle beaucoup, oui. Fessenheim n'a pas été fermé. Et nous, à Trèves, on a beaucoup peur qu'on va finir comme les gens à Fukushima.
Il faut arrêter. C'est tout bête, mais il faut arrêter.
C'était là le premier temps fort du week-end pour les antinucléaires. Demain, il recommence. Une autre mobilisation est organisée devant la centrale de Fessenheim.
Un reportage d'Doris Henry à Strasbourg pour RTL. Ce 11 mars, anniversaire de Fukushima, je vous le disais, anniversaire également du début de l'équipée meurtrière de Mohamed Merah, qui allait tuer 7 personnes. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Il le 11 mars tombait sa première victime, Imad Ibn Ziaten, un militaire du 1er régiment du train parachutiste de Francazal, près de Toulouse. Depuis, sa mère, Latifa Ben Ziaten, se bat avec beaucoup de courage pour la paix et le dialogue entre les religions. Le football, on y revient. Un deuxième but, Michael Lefebvre, pour les Monégasques.
Ah oui, et qu'est-ce qu'il est beau ce but en faveur de l'AS Monaco. But inscrit par Joao Moutinho. Une frappe enroulée, pied droit à l'extérieur de la surface de réparation en pleine lucarne de Cédric Carasso. Magnifique but donc de la part du Portugais. Quelques minutes seulement après l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Monaco qui avait eu du mal pendant plus d'une heure face à cette équipe bordelaise bien regroupée. Mais là, les Monégasques ont fait la différence et il file vers la tête, il garde la tête de la Ligue 1 pour le moment avec 5 points d'avance sur l'OGC Nice avant le match des Parisiens demain face à Lorient. Mais surtout, ils se rassurent, ils sont capables de marquer 2 buts ici au Louis II. C'est ce qu'il faudra faire mercredi soir face à Manchester City en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un quart d'heure à jouer encore, 2-0 pour Monaco face à Bordeaux.
Merci Michael. Ce soir, 4 matchs à partir de 20h. Guingamp-Bastia, Montpellier-Nantes, Nancy-Lille et Rennes-Dijon. En rugby, coup d'œil au score entre l'Angleterre et l'Écosse, 40-7 pour les Anglais. On est à peu près à une demi-heure de la fin dans le tournoi Destination. En cyclisme, coup dur pour le Français Julien Alaphilippe. Il portait le maillot jaune depuis mercredi dans Paris-Nice. Eh bien, il était lâché aujourd'hui à 10 km de l'arrivée. C'est le Colombien Sergio Henao qui l'endosse, ce maillot jaune, à la veille donc de l'arrivée. La 7e et avant-dernière étape a été remportée par l'Australien Richie Porte au col de la Couillole. C'est dans l'arrière-pays niçois, Valérie Quintin. C'est pour votre
c'est
culture.
Ravissant. C'est ravissant. Je vous remercie.
Alors justement, c'est à vous, enchaînement, sans transition plutôt. Aujourd'hui, on a eu du soleil, de la douceur. Demain, ce sera tout le contraire.
De la pluie, de la grisaille partout, du vent, de la neige en montagne et pas très très haut, 1500 mètres sur le massif central ou encore sur les Pyrénées. Alors la pluie arrive déjà sur l'ouest ce soir. Elle va concerner demain une grosse moitié ouest du pays. Dans l'après-midi, ça pourrait tomber assez dru entre la Normandie et les Pyrénées. Il restera quand même du soleil sur les régions du flanc ouest une grande partie de la journée. Sauf que quand même au niveau du sud, les pluies présentes près des Pyrénées vont peu à peu gagner les régions méditerranéennes au fil des heures. Donc demain après-midi, il pleuvra aussi sur les régions côtières de la Méditerranée. Il y aura un petit peu de neige en montagne à 2000 mètres, pas très loin de votre col de je sais plus au juste.
La Couillole.
J'ai du mal à le retenir celui-ci.
Je sais pas pourquoi.
Je sais pas non plus. Les températures, ça baisse. 12 degrés à Brest demain après-midi, 14 à Bordeaux et Toulouse, 15 à Lille et Paris, 16 à Strasbourg et Lyon, 18 à Marseille, 20 à Montpellier.
Merci beaucoup, Valérie.
Je vous en prie.
Dans un instant, les courses avec Bernard Glass et Claude Pierre-Santi.
RTL Soir, Philippe Robuchon.
Les courses, bonsoir Bernard Glass.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et bonsoir Claude Pierre-Santi.
Bonsoir Philippe, bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
Claude qui est je crois dans le sud de la France, pas loin de Cagnes-sur-Mer où aura lieu des courses demain. Ce qui nous intéressera nous dans un instant, c'est le Quintet d'Auteuil, on va y revenir. D'abord Bernard, quelques mots sur l'image des courses auprès du grand public.
Tout à fait, les responsables du marketing commun ont créé l'an passé les Epic Series pour mieux faire connaître à une clientèle plus jeune le monde des courses. Ils ont dressé un premier bilan hier et ils sont globalement satisfaits, même s'il y a encore du travail pour accroître la notoriété du monde épique. Donc cette deuxième année va se poursuivre avec toujours 14 épreuves valorisées par une tirelire de 10 millions d'euros, mais il va y avoir également 4 autres épreuves, des petites sœurs, pour des courses importantes. Ce sont maintenant les Epic Days, dont Samuel Loiseau, l'un des directeurs du PMU, explique la spécificité.
Alors après une première saison des 14 plus belles courses de France dans un grand championnat, on a ressenti le besoin de valoriser d'autres disciplines, des courses de chevaux, où il y a de l'émotion, où il y a du spectacle, où il y a d'autres acteurs. L'obstacle, le trop monté. Et donc le principe, c'est de dire que sur une journée ou sur un week-end, on veut théâtraliser, on veut rendre lisible ce spectacle auprès, encore une fois, d'une cible de gens qui ne s'intéressent pas naturellement aux courses. Donc les Epic Days, ce sera 4 journées ou 4 week-ends dans l'année qui commencent par le Grand Steeplechase de Paris, les 20 et 21 mai, où on va mettre en scène les acteurs d'une journée, notamment les pilotes, sous la marque Epic pour que ce soit lisible du grand public, et puis qu'on va accompagner d'une tirelire de 5 millions d'euros sur le Quintet Plus de cette journée.
Alors c'est une journée de gala, vous l'avez dit Philippe, demain à Cagnes-sur-Mer, la plus belle au trot de l'année sur laquelle on peut jouer en Réunion 3. S'y dispute en effet un beau groupe 1, le Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, sur la très courte distance distance de 1609 mètres avec 14 partants moins 1 puisque Colm Keeper blessé et non partant. C'est un pic 5 et tous les regards vont être tournés sur le tenant du titre, le merveilleux Timoko, qui à cette occasion, Claude, pourrait entrer un peu plus encore dans l'histoire du trot.
Oui, Bernard, Timoko est invaincu en 5 tentatives sur la piste canoise, dont 3 dans ce critérium de vitesse. Donc dans cette 60e édition, toutes les jumelles seront braquées sur Timoko et Bjørn Goop. Il a le numéro 4, un numéro très avantageux, puisque son principal rival sur le papier, Amec Deripré, s'élance avec le dossard numéro 8. Maintenant, il faut savoir que Amec Deripré, c'est un pur sprinter, un débouleur hors pair. Il a gagné des sprints en Suède, en Finlande et bien évidemment en France. Donc très très belle explication dans cette 60e édition du Critérium Canois entre Timoko et un mec d'Eripré dérivé par Jean-Michel Bazir.
Voilà Claude pour Cagnes-sur-Mer. Bernard, demain donc, on en vient au quintet très ouvert sur les haies d'Auteuil.
Et on espère que cette fois tout se passera bien, Philippe, après le quintet abracadabrantesque de dimanche dernier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. 10 des 13 concurrents au départ se sont trompés de parcours, quelques-uns sont revenus dans le droit chemin, d'autres non. Fallait-il stopper ou non l'épreuve? Les officiels ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils auraient dû le faire. C'est en tout cas demain un quintet très difficile avec 18 concurrents qui viennent d'un peu partout, mais dont certains ont un avenir à Auteuil. Et je vous propose deux propos de pros que l'on peut retrouver à tout moment sur notre site On refait les courses. Il s'agit de deux outsiders, Le Mans et Footballisto. Le premier vient de se révéler à Cagnes-sur-Mer. Son très adroit entraîneur, David Windriff, pèse le pour et le contre. C'est le 9.
Je pense que c'est pas infaisable pour faire l'arrivée. Maintenant, il sera monté comme il a été monté à Gang. C'est un cheval qui, voilà, pour l'instant, il a besoin de prendre du métier. S'il gagne, c'est bien, mais s'il gagne pas, il faut qu'il prenne de l'expérience.
Le second, qui est le 12, est entraîné par un professionnel en pleine forme, Michael Serror. Il fait une rentrée. Où en est-il? Est-ce que ce footballisto est un penalty? Réponse de l'intéressé.
Un penalty, non, mais il va courir avec une chance quand même, parce qu'on l'a vu en fin d'année dans le Fifrelet. Il a montré qu'à ce poids-là, il avait une chance. Donc bon, là c'est une rentrée, il y a peut-être des nouveaux venus, j'ai pas trop fait attention pour le moment. Mais en tout cas on sait que le cheval est à son poids, il aime le terrain lourd a priori, il va en avoir. Le cheval est bien à l'entraînement, tout va très bien, il a profité de l'hiver, moi je trouve qu'il a bien changé.
Alors Claude, il y a de multiples possibilités dans cette troisième épreuve et vous avez, vous, déniché un gros outsider pour peut-être pimenter un peu plus les rapports.
Oui, Bernard, vous avez fait allusion aux chevaux susceptibles d'avoir de l'avenir à Auteuil. Et je pense que c'est le cas de l'ami Sanèche, le numéro 18. C'est un cheval qui est peu expérimenté. C'est le moins aguerri du lot. Il n'a couru que 3 fois. C'est son premier handicap. Mais il a déjà fait jeu égal à Cagnes-sur-Mer avec Le Mans. On a entendu David Frundriff. Donc à 62 kilos, je pense que dès demain, il faut suivre de près l'ami Sanèche. À mon avis, il va trouver sa voie dans cette catégorie, Bernard.
Et je vous précise que c'est le premier des 4 dimanches au galop qui débute demain à Auteuil, avec de nombreuses animations pour les familles, et que les 1000 premiers arrivés sur le champ auront des bons à parier gratuits. Donc le prono, le voici. Urcan, le 11. San Pedro de Sename, le 6. Hautmel As, le 2. Le Mans, le 9. Toussbrick, le 5. Footballisto, le 12. Pyromane, l'As. Et l'ami Samèche, le cheval de Claude Piersanti, le 18. Les numéros,
Philippe, il les répète. 11, oui, 6, 2, 9, 5, 12, As et 18.
Il a bien noté.
Voilà, il a bien noté. On va rapidement à Monaco avec un but casquette, Mickaël Lefebvre.
Un vrai but gag en faveur des Girondins de Bordeaux sur un dégagement complètement loupé de Subasic, en tous les cas contré par Roland, le gardien monégasque qui s'était aventuré en dehors de sa surface de réparation. Ballon donc contré, Roland qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. 2-1 pour Monaco dorénavant face à Bordeaux. Il reste 3 minutes 30 dans le temps réglementaire.
Merci Mickaël. On retrouvera Monaco évidemment avec Pascal Praud juste après la pub dans On refait le match. Bonne soirée à tous.